Radio Prague, les informations.
Alexander Vondra a présenté les priorités de la présidence tchèque de l'Union européenne en 2009. Václav Klaus a annoncé officiellement sa prochaine candidature présidentielle. La question d'implantation d'un radar américain en Tchéquie sera discutée à Bruxelles. L'Europe sans barrières, tel sera le principal mot d'ordre de la présidence tchèque de l'Union européenne en 2009. Les priorités futures, définies par la Commission pour l'Union européenne, ont été présentées par Alexander Vondra, vice-premier ministre pour les affaires européennes. Dès l'automne prochain, les représentants politiques tchèques discuteront de ces objectifs avec leurs homologues français et suédois. Le président Václav Klaus a annoncé que dans un an, lorsque son actuel mandat présidentiel aura expiré, il présenterait une nouvelle fois sa candidature au poste de chef de l'État. Il avait déjà fait part à plusieurs reprises de son intention. C'est cependant seulement ce mercredi, le jour du 4e anniversaire de son élection, qu'il a fait d'une manière officielle. En ce qui concerne le Parti social-démocrate, principal parti de l'opposition, on s'attend à ce qu'il présente lui aussi son candidat. Ce jeudi, les députés tchèques négocieront en Bruxelles avec des représentants américains et ceux de l'OTAN de l'éventualité d'implantation d'un radar américain en République tchèque. C'est en janvier dernier que la demande américaine d'implantation d'un radar dans l'espace militaire de Brdy a été soumise officiellement à la partie tchèque. Depuis, cette question divise la scène politique et l'opinion publique dans le pays. L'avocat Zdeněk Altner a demandé au chef du Parti social-démocrate, Jiří Paroubek, de rendre public le contrat sur la base duquel il représentait la formation politique dans l'affaire immobilière concernant la maison populaire, le siège du parti. L'avocat a également rejeté une nouvelle fois la proposition du Parti social-démocrate de lui verser la somme de 165 millions de couronnes. Ce mercredi, les activistes autrichiens ont une nouvelle fois bloqué un passage à la frontière entre l'Autriche et la Tchéquie. Le problème de la centrale nucléaire de Temelin a été abordé lors de la rencontre mardi à Prague entre le chancelier autrichien Alfred Gusenbauer et le premier ministre tchèque Mirek Topolánek. Météo, c'est jeudi qui est marqué dans le calendrier tchèque comme le jour de fête de Betřich. Les températures diurnes se situeront autour de 10 degrés. Le ciel demeurera à moitié dégagé, des averses sont prévues dans la partie est du pays. Des chutes de neige pourront apparaître en montagne. C'était le journal présenté par Alena Gabertova.
Faits et événements en République tchèque. Magdalena Hrozinková.
Merci d'écouter Radio Prague. La location peu transparente des avions de chasse suédois Gripen à l'armée tchèque continue de nourrir la polémique dans le pays. Les récents propos de l'ancien chef de la diplomatie Jan Kavan soulèvent de nouvelles interrogations, nous vous en dirons plus. Les policiers ont manifesté mardi à Prague contre le nouveau système de rémunération. Le festival du film documentaire Jeden Svět, axé sur les droits de l'homme, se tient jusqu'au 8 mars à Prague. Nous parlerons du film tchèque qui a fait son ouverture. La télévision tchèque a diffusé mardi soir la seconde partie d'un reportage réalisé par une équipe de journalistes suédois relatif à la location des avions de chasse Gripen à l'armée tchèque par le consortium anglo-suédois BAE Systems Saab. Un contrat au-dessus duquel planent d'importants soupçons de corruption, comme-t-on à le confirmer le reportage. Dans celui-ci, on entend notamment l'ancien ministre des Affaires étrangères, Jan Kavan, affirmer, entre autres, que de nombreux hommes politiques se seraient laissés corrompre pour voter en faveur de l'achat, puis de la location des chasseurs suédois. Guillaume Narquet.
Comme il l'admet lui-même, Jan Kavan s'est fait piéger par les journalistes suédois. Ces derniers, en se faisant passer pour des agents de sécurité au service de l'usine d'armement BAE Systems, ont donné deux rendez-vous en janvier dernier à Londres à l'ancien chef de la diplomatie tchèque pour évoquer avec lui la corruption qui aurait accompagné le choix des Gripen. Au cours de ces entretiens, filmés par une caméra cachée, on entend Jan Kavan admettre qu'une bonne partie de la classe politique tchèque aurait accepté des dessous de table pour se prononcer en faveur de l'achat puis de la location location des avions de chasse suédois. Un peu plus loin dans le reportage, à la question de savoir s'il serait possible aujourd'hui d'exercer une certaine influence sur l'enquête policière actuellement en cours, Yann Kavan a répondu que cela, je cite, « n'est pas tout à fait exclu ». Aussitôt après la diffusion du reportage, Yann Kavan a démenti en bloc, expliquant que ses propos avaient été mal traduits et sortis de leur contexte.
Ce fut une erreur de ne pas avoir contrôlé préalablement avec qui je parlais, et bien entendu, c'est aussi de ma faute. Si j'ai pensé que grâce à cet entretien au sujet de rumeurs non établies, je pouvais provoquer une discussion dans laquelle moi, j'en aurais appris plus qu'eux. Mais c'était là une mauvaise appréciation de la situation et donc une faute de ma part.
Yann Kavan, ancien président de l'Assemblée générale de l'ONU, s'est également voulu catégorique quant à ses propos sur une éventuelle pression exercée sur la police et son enquête. Mercredi, la presse pragoise se contentait donc de constater que si des soupçons existaient bien, les preuves manquaient encore pour l'instant pour permettre de déterminer toute l'ampleur du scandale et l'identité des politiciens tchèques parmi les plus haut placés ayant fait l'objet de corruption. L'enquête policière continue toutefois d'être menée en République tchèque comme en Suède. Rappelons qu'en 2001, le gouvernement dirigé par Miloš Zeman avait approuvé l'achat de 24 Gripen pour environ 60 milliards de couronnes. Un achat qui ne s'était cependant jamais réalisé, le Sénat refusant son mode de financement au printemps 2002. Quelques mois plus tard, suite aux terribles inondations qui avaient touché le pays pendant l'été, le gouvernement nouvellement en place de Vladimir Špidla avait annulé l'appel d'offres pour l'achat d'avions de chasse avant de lancer un nouvel appel d'offres à l'été 2003 pour la location cette fois de 14 avions. Puis en décembre 2003, enfin, un contrat de 22 milliards de couronnes était signé avec le consortium anglo-suédois BAE Systems Saab pour la location pour une durée de 10 ans de 14 Gripen. Depuis, l'ombre de la corruption, de plus en plus menaçante, plane sur ces deux affaires.
Près de 2000 policiers et pompiers ont manifesté mardi à Prague contre la loi que l'on appelle ici la loi sur les services. Cette nouvelle loi est venue modifier le système de rémunération pour les heures supplémentaires. Plus d'explications avec Alexis Rosenzweig.
Les manifestations ne sont pas fréquentes en République tchèque, elles sont tout à fait exceptionnelles lorsqu'elles impliquent des membres des forces de l'ordre et des soldats du feu. Mais le ton monte depuis l'entrée en vigueur de cette loi, des centaines d'entre eux ont déjà donné leur démission et une pétition circule pour faire modifier les nouvelles règles. Si ça continue, il ne va plus rester que les jeunes qui sortent de l'école et les plus âgés, à qui il ne reste plus beaucoup de temps avant la retraite. Mardi soir, policiers et pompiers voulaient attirer l'attention du public et surtout celle du ministre de l'Intérieur. Principal sujet de mécontentement, la suppression des primes pour les services effectués de nuit, le week-end et pendant les jours fériés. Ivan Langer s'est dit prêt à négocier suite aux revendications du manifeste 361 qui représente les mécontents et tire son nom du numéro de la loi en question. Le chef de la police, Vladislav Husák, a confirmé qu'un arrangement pourrait être trouvé.
Je voudrais confirmer les engagements pris par le ministre de l'Intérieur. Nous avons assez de moyens pour accroître la part consacrée au salaire des policiers, donc je suis plutôt optimiste pour la suite.
La nouvelle loi, entrée en vigueur début janvier, concerne également les gardiens de prison et les douaniers. Si cette loi ne prévoit la rémunération des heures supplémentaires qu'à partir de 150 heures effectuées en plus du temps de travail normal, elle diminue en revanche la durée du travail hebdomadaire et rallonge les vacances, des compensations apparemment insuffisantes pour les principaux concernés.
Pour la première fois cette année, le 28 février est en République tchèque la journée nationale de sensibilisation à la schizophrénie. Jarka Gusublova nous en dit plus.
La Société psychiatrique tchèque a proclamé cette journée sur la recommandation de l'Organisation mondiale de la santé. Son objectif est de sensibiliser l'opinion sur la schizophrénie, lever le tabou et présenter des projets qui aident les personnes qui en souffrent à retourner à la vie normale. Le médecin-chef de la clinique psychiatrique de Prague 2, le professeur Jiří Raboch, précise.
Nous partons de la situation qui existe non seulement en République tchèque, mais qui est semblable dans de nombreux pays du monde, à savoir que la schizophrénie est une maladie grave qui frappe près de 1% de la population. Les personnes atteintes de schizophrénie sont souvent à la merci de leur destin. Ce sont des individus réellement plus vulnérables, plus fragiles, qui ont besoin de toute notre aide. Et cette aide est non seulement possible et profitable à ces personnes, mais aussi à l'ensemble de la société, car les soins de qualité leur permettent leur retour à la vie normale.
Effectivement, des études réalisées par l'Organisation mondiale de la santé montrent que les maladies neuropsychiatriques représentent une charge énorme pour la société, plus grande encore que les maladies cardiovasculaires ou cancéreuses. La dépression vient en tête et la schizophrénie occupe la cinquième place. En ce qui concerne le traitement, le professeur Jiří Rabor assure que la République tchèque a accès aux médicaments et méthodes les plus sophistiquées.
La Tchéquie dispose des mêmes médicaments que ceux qui sont ordonnés aux États-Unis ou dans les pays de l'Union européenne. Grâce aux méthodes les plus modernes, nous pouvons diagnostiquer avec précision la schizophrénie, qui est une maladie somatique, donc qui concerne le corps, plus précisément le cerveau. Nous avons des appareils de traitement sophistiqués, dont celui qui assure la stimulation magnétique répétitive du cerveau. Dans toutes les étapes de la maladie, c'est toutefois la psychothérapie qui reste la méthode de première importance.
La schizophrénie est une maladie incurable. Or, avec un traitement systématique, 9% des patients sont sans symptômes après 3 ans et ce chiffre augmente à 14% après 5 années de traitement. Plusieurs projets ont été mis en œuvre pour aider les malades dans leur adaptation sociale et dans leur travail. Le témoignage de l'un d'eux, Michal, 28 ans, qui souffre de cette maladie depuis ses 20 ans, a toutefois montré que ces personnes ont des difficultés énormes pour trouver un emploi. Sensibiliser les employeurs est donc aussi l'un des objectifs de la Journée nationale de la schizophrénie.
Quelques 120 films d'une quarantaine de pays sont à l'affiche du 9e Festival international du film documentaire Jeden Svět, One World, qui s'ouvre ce mercredi à Prague. Cette année, le festival accentue entre autres la création des documentaristes tchèques. Et pour cause, il a été inauguré ce mercredi soir dans la salle pragoise Lucerna par la projection du nouveau film d'une documentariste chevronnée, Helena Třeštíková, film qui est en sélection officielle de Jeden Svět. Son titre est simple, Marcela, l'équivalent tchèque de Marcel. Mais l'histoire du film est bien plus complexe. Tout a commencé il y a 26 ans, en décembre 1980. Cette année-là, Helena Třeštíková s'est lancée dans un projet de longue haleine. Elle filme les premières années de la vie conjugale de 6 jeunes couples vivant à Prague et choisis au hasard. 20 ans après la sortie de ce premier cycle de documentaire, donc une dizaine d'années après la chute du communisme, elle retrouve ces mêmes couples et tourne la suite de leurs histoires. Parmi ces acteurs, on retrouve Marcela et son mari Jiří. Leur histoire, à eux, est la plus dramatique de toutes. Ils divorcent peu après la naissance de leur fille Ivana. En 2000, Marcela vit toujours seule avec sa fille adorée et son deuxième enfant, Tomáš, souffrant de troubles du comportement. La famille est obligée de quitter Prague et vit très modestement. Ivana, 18 ans, a du mal à trouver du travail. Le film, diffusé avec toutes les autres parties de la série à la télévision à l'automne 2006, se termine par une scène choc. Un jour, Ivana ne rentre pas chez elle. Un mois plus tard, son corps est retrouvé près d'une voie de chemin de fer à quelques kilomètres de Prague et s'est fait voler, puis a été renversé par un train. Après la diffusion du film, il est arrivé quelque chose d'inattendu. Des centaines, peut-être des milliers de téléspectateurs ont contacté Marcela pour lui manifester leur soutien. Par ailleurs, une somme d'argent assez importante qu'ils ont spontanément collectée lui permettra de déménager à Prague. Touchée par cette vague de solidarité déclenchée par son film, Helena Treschikova tourne alors l'année dernière la suite du film. Dans sa forme finale, le long-métrage Marcella, qui sort en salle le 8 mars prochain, englobe toute la vie de cette petite femme rondelette aux grands yeux marrons qui aime les chevaux, la nature et la musique, mais qui n'arrive toujours pas à se remettre de la mort de sa fille.
Нічим таким, яко власне тагне. Я тагне мимо упаде уж ту реаліту тари жив.
Tentative de suicide, hospitalisation, face cachée de la popularité. Helena Treschikova, devenue au fil des années la meilleure amie de Marcella, son ange gardien presque, parle de tout cela dans son film, sensible mais pas sensationnel. Chaque destin, même la vie la plus ordinaire possible, peut devenir un sujet fort d'un film, estime-t-elle. C'est d'ailleurs cette simplicité et spontanéité de Marcella, une femme ordinaire, qui fascine la cinéaste. On écoute Helena Treschikova.
Si vous étiez assis en face d'elle, si vous discutiez ensemble, elle serait comme dans le film. C'est quelqu'un qui ne fait pas attention à la caméra, c'est rare.
Pour Helena Treschikova, il n'était pas question d'insister sur le tournage.
Si elle avait dit « non, je ne veux pas qu'on continue », je l'aurais évidemment accepté. Mais pour elle, nos rencontres étaient comme une sorte de psychothérapie. Surtout dans les moments difficiles, notre présence était encourageante pour elle, je pense. Tous les membres de l'équipe, elle les appelait par leur prénom. Elle préparait toujours un rafraîchissement. On sortait ensemble, on tournait dans la rue, dans une fête foraine à Prague, où on l'a invitée avec son fils. C'était la seule occasion pour elle de vivre quelque chose d'agréable. Mais évidemment, pour mon équipe et moi-même, tout le tournage était très délicat.
Rappelons que le film Marcella a été projeté ce mercredi en ouverture du Festival international du film documentaire Jeden Svět. Il se tiendra jusqu'au 8 mars à Prague et ensuite dans 15 autres villes tchèques. C'était Fais événements en République tchèque. Notre programme se poursuit.
Chapitre de l'histoire tchèque.
Dans quelques mois, une commission spéciale formée d'ecclésiastiques et d'archivistes devrait rendre public les premiers résultats de ses recherches sur la collaboration de prêtres avec la STB, police secrète de l'ex-Tchécoslovaquie communiste. Le partenariat contre nature, catholicisme, régime communiste a-t-il eu un impact sur les relations entre l'Église et la population après 1989 ? Tel est le thème de cette page d'histoire proposée par David Talon et présentée par Jarka Gisublova.
Paix sur la terre, c'est le nom moins candide qu'il n'y paraît donné au groupe de prêtres employés au service du régime communiste tchécoslovaque à partir de 1971. Sa création donne le départ à la reprise en main de l'Église par le pouvoir après une brève période de relâchement. L'appellation du mouvement Pacem in Terris n'est pas choisie au hasard et résonne comme un crochet ironique en Saint-Siège. C'est le nom de l'encyclique qu'avait publié le pape Jean XXIII, 8 ans plus tôt, en 1963. L'instrumentalisation de ce groupe apparaît au grand jour avec l'affaire des euromissiles. Dès 1977, les Russes commencent à déployer sur leur territoire des missiles balistiques. En 1979, ils sont sur le point d'atteindre leur objectif. La constitution de 3600 objectifs sélectionnés en Europe occidentale. La même année, l'OTAN décide d'adopter un plan prévoyant l'installation de 108 fusées Pershing 2 en Allemagne fédérale et de 460 fusées en Grande-Bretagne. Le 21 janvier 1983 s'ouvre au Palais de la Culture de Prague l'Assemblée mondiale pour la vie et la paix et contre la guerre nucléaire. Seuls sont autorisés à participer au congrès les mouvements pacifistes officiellement reconnus. Il s'agit en fait de fustiger l'OTAN comme fauteuse de guerre. Le régime sort alors sans joker catholique, censé légitimer les intentions évangéliques du Kremlin. L'évêque Josef Rania, administrateur apostolique de l'Olomouc et l'un des leaders de Pacem Interis, apporte immédiatement son soutien au projet russe d'installation des missiles. L'association publie également un texte de Mgr Gabrich, administrateur de Trnava en Slovaquie, justifiant l'initiative soviétique. Le document se révélera être un faux contre lequel protestera l'intéressé en personne. Face à cette manipulation, les membres des églises clandestines réagissent. Des catholiques écrivent à l'association ecclésiastique officielle, l'accusent d'opter pour les intérêts du pouvoir au détriment de celui des fidèles. En décembre 1983, le synode de l'église protestante, avec Jan Keller à sa tête, dénonce le projet nucléaire soviétique. Il faut dire que sous l'influence de la Pologne voisine et face à la répression du régime, l'Église réelle sort de sa réserve. L'archevêque de Prague, Mgr Tomaszek, condamne Pacem Interis et réclame plus de liberté. Le régime de son côté maintient la pression. En 1984, trois catholiques sont arrêtés en Slovaquie, accusés d'avoir rédigé une pétition en faveur de la venue du pape Jean-Paul II en Tchécoslovaquie. L'association Pacem Interis regroupe alors plus de la moitié des 3200 prêtres officiant en Tchécoslovaquie. Les motivations de ses membres sont diverses. Certains sont attirés par les avantages matériels et le statut social. D'autres moins nombreux ont pu faire preuve de naïveté, séduits par le discours pacifiste de la propagande officielle. L'impopularité du mouvement a-t-il eu une influence sur la mauvaise image de l'Église en Bohême, surtout depuis 1989? Au lendemain de la révolution de velours, Václav Mali, prêtre dissident, aura sans doute contribué à donner une aura de légitimité à l'Église. La population a su faire la part des choses et n'oublie pas le rôle actif de l'Église clandestine dans l'opposition au régime. Plus que l'existence de Pacem Interis, ce sont deux phénomènes qui ont aggravé les relations entre l'Église et la nation tchèque dans les années 1990. Les restitutions, tout d'abord. En décembre 1994, à la demande de l'Église, la Cour de justice de Prague 1 décide de lui remettre l'ensemble des édifices religieux situés dans l'enceinte du château de Prague, parmi ceux-ci la cathédrale Saint-Guy et la basilique Saint-Georges. Une partie de la population se mobilise. Une pétition recueille 12 000 signatures, parmi lesquelles celle de 107 députés. L'écrivain Lenka Prochaskova s'exprimera avec vigueur. Pendant 650 ans, la cathédrale a été bâtie par les rois tchèques avec les deniers du peuple tchèque. Ce n'est pas pour qu'elle finisse dans les mains du Vatican. L'affaire n'est toujours pas classée aujourd'hui. Dernier rebondissement, le 16 février dernier, la cathédrale Saint-Guy est revenue dans le giron de l'État après un arrêté de la Cour suprême annulant le verdict de la Cour d'appel qui avait statué il y a un an en faveur de l'Église. Le malaise de l'Église tchèque remonte quant à lui aux années du communisme. Paradoxalement, il ne concerne pas que les prêtres collaborateurs, mais ceux de l'Église clandestine persécutés par le régime. Celle-ci comptait en son sein un petit groupe de prêtres mariés, ce qui est rigoureusement interdit par l'Église catholique. Ces prêtres avaient décidé de créer des structures parallèles et d'ordonner clandestinement leurs propres officiants. Rappelons qu'en 1972, on comptait 10 diocèses vacants sur 13 en Tchécoslovaquie. Les prêtres avaient été mariés par l'intermédiaire de l'Église gréco-catholique qui, comme l'Église orthodoxe, autorise le mariage des prêtres. Tous seront cependant mis à l'écart par le Vatican après 1989. Sur l'instigation du cardinal Vlk, certains de ces prêtres ont pu être ordonnés dans l'Église gréco-latine, comme en Slovaquie à Banská Bystrica, par exemple. Pour mémoire, le cardinal Miloslav Vlk joue actuellement un rôle important dans la réévaluation de la collaboration de certains prêtres avec la STB, les anciens services secrets tchécoslovaques. La polémique des prêtres mariés n'a sans doute pas pesé à long terme dans l'opinion publique tchèque. Elle rappelle plutôt les accusations de nicolaïsme portées au Moyen-Âge contre les prêtres mariés. Plus encore que la collaboration de certains prêtres avec la STB, l'athéisme des Tchèques s'explique surtout par une histoire millénaire et complexe avec le catholicisme. Rappelons que les Hussites furent les premiers en Europe à déposséder totalement l'Église catholique de ses biens.
C'était le magazine historique de Radio Prague. Notre programme en langue française se termine. Merci de l'avoir suivi. À la prochaine. Listening to Radio Prague, the international service of Czech radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 8 hours UTC on 7345 and 9860 kHz and at 17, 18 and 21 hours on 5930 kHz. Listeners in Northern Europe can hear us at 11:30 hours on 11640 kHz. Listeners in West Africa can listen to Radio Prague at 10 hours UTC on 21745 kHz, at 17 hours on 15710 kHz, and at 22:30 hours on 9435 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 17 hours on 15710 kHz and at 22:30 hours on 9435 kHz. Listeners in East Africa can hear us at 11:30 hours UTC on 17545 kHz and at 4:30 hours on 9890 kHz. Listeners in the Middle East can listen to Radio Prague at 11:30 hours UTC on 17545 kHz. Those of you tuning in North America can hear us at 14 hours on 13580 kHz, at 22:30 and 23:30 hours on 5930 kHz, also at 23:30 hours on 7345 kHz, and at 1, 2 and 4 hours on 6200 and 7345 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at